Je suis Didier Leclerc, photographe, auteur, qui écrit des textes et en même temps qui écrit par l'image, l'image étant une écriture également, voilà, pour moi. Voilà, donc j'ai fait plusieurs publications depuis 1980, donc des expositions, des publications de livres d'artistes. Je travaillais au sein de l'atelier N89, c'était la fin de ma formation photographique chez Serge Gall dans le Gard, donc qui a duré une année. Voilà, donc là, 89, parce que ça s'est fini en 89. Voilà. Et à partir de là, j'ai monté avec des amis proches, photographes, plasticiens, professeurs d'art plastique, donc un groupe de créateurs, voilà. Et on fonctionnait au projet, donc chacun était libre, venait au projet, l'étayait, le complétait, trouvait sa place ou pas, ou ne participait pas, donc il y avait une grande liberté de création. Et en même temps, le groupe aidait, s'il y avait besoin, la personne qui faisait une exposition ou qui, voilà, il y avait une coopération créative, donc voilà, qui dure toujours d'ailleurs, même si elle est dans le Gard, et qui se transpose maintenant ici dans les Alpes de Haute-Provence, puisque là à Courbon c'est premier événement de l'atelier N89, et c'est en même temps en coopération avec l'association des résidents de Courbon, avec l'église Antoine Gérard, l'association, voilà. Donc, alors...
Donc ce rendez-vous, c'est le samedi 26 octobre à 18h. Qu'est-ce qui va s'y passer?
Alors, il va s'y passer une performance de lecture de mes textes, accompagnée musicalement par Pierre Barboni, et en même temps... des projections d'images qui vont accompagner les textes et la musique. Donc, il y a la grande de faire la synchronisation du voir, de l'écoute et des mots, hein, de l'écriture textuelle, donc disons. Voilà. Et donc ce travail de synchronisation s'est fait. On l'a présenté à quatre spectateurs critiques déjà, donc voilà, qui nous ont renvoyé des notes, et donc on a retravaillé l'ensemble, et c'est cet ensemble là que l'on va présenter à Courbon samedi prochain. On va le présenter aussi à Nîmes à la fin du mois de novembre, puisqu'on est demandé là-bas. Et ce que j'ai appris, c'est que l'année prochaine aussi, dans plusieurs municipalités, on va se déplacer comme ça. Quand on voudra bien nous accueillir le projet. Voilà.
Donc là, ce samedi 26 octobre à 18h à Courbon, ça se passe dans l'église. Et c'est une participation libre, mais au profit de la rénovation de l'église.
Il y aura une partie qui sera donnée pour l'amélioration. Donc, voilà, c'est les personnes de Courbon qui nous diront comment faire, qui vont gérer ça. Voilà. Voilà, avec grand plaisir. Alors, on leur fait toute confiance, bien sûr, là-dessus.
Alors, voilà. Est-ce que si vous nous parliez un peu de ces livres-là, alors?
Alors, donc, il y a eu... Ça, c'est un livre qui est paru déjà il y a pas mal de temps, en 2014. On habite aussi en Camargue, en petite Camargue à Vauvin. Donc, et j'étais très préoccupé par la montée des eaux en Camargue. Donc ce travail, ça parle de ça, de la montée des eaux en Camargue, avec Tristan Cabral. Alors c'est un poète, un grand poète qui est décédé maintenant, et Alain Dervieux, qui était directeur de recherche au CNRS sur la Camargue, sur les travaux à faire sur la Camargue. Donc, c'est une façon de dire, il faut se remonter les manches, pas simplement le photographe, mais aussi le scientifique, le poète, hein, et voir tout ça, ce que l'on peut faire, ce qui est à faire. Bon, du moins, en 2014, c'était tirer le signal d'alarme. Hein.
Bon. Et ça s'appelle ?
Et ça s'appelle « Quand vient la mer » au Delta de Camargue. Donc, c'est édité par la maison d'édition Sans Souire, qui est à Nîmes. La maison d'édition Sans Souire, qui a publié beaucoup de mes livres et qui s'apprête à publier le prochain sur l'élevage bovin, programmé pour 2025. Voilà. Donc ça, ce sont des contes. La bête du Couard, parce que j'habite au pied du Couard, à Archailles, au pied du Couard. Voilà. Et donc, ça a été, la première lecture a été faite avec Christiane Isoardi et Berthe Pellestor. Berthe Pellestor qui avait lu le texte en occitan d'ici, donc alpin. Voilà. Et donc, ce livre, c'est un conte sur, là aussi, transition écologique climatique. J'avais assisté à une conférence au collège Borély, dans le cours de c'était au mois de septembre, octobre, ça se faisait tous les deux ans. Et le conférencier, qui était professeur à l'université de Montpellier, racontait ces études-là, faite au pied du Pic Saint-Loup, au nord de Montpellier. Donc, Pic Saint-Loup que je vois aussi du bureau de mon bureau à Vauvert, qu'on a fait. Ça. Et donc il racontait qu'avec l'élévation déjà à l'époque, le changement, l'élévation de température induisait des transformations de l'ADN d'une catégorie de thym. Observé au pied du Pic Saint-Loup, il y a une grande cuvette. Bon, alors, je ne vous dirai pas les détails, etc. Mais le fait était là, c'est-à-dire que ça joue sur les profondeurs de nous-mêmes. Alors bon, voilà. J'ai transposé cela au niveau d'une bête, puisqu'il y avait la bête du Gévaudan, il y avait la bête du Vacarès, que j'adore aussi énormément. Je me suis dit, il y aura la bête du Couard. Voilà. Donc c'est un conte philosophique, très simple en même temps, mais qui parle de cette bête qui est là et d'un jeune trappeur qui va à sa recherche. Et cette bête, au fond, on ne sait pas où elle est. Voilà. Alors, ce conte a été traduit en provençal, mistralien, par Madame Pousse. Voilà. Et traduit aussi en occitan par le directeur des études occitanes de Nîmes, Jordi Pladan. Et donc, ça a donné lieu à cette publication dont, voilà, je pense qu'elle suit son cours. Et ça a été édité par La Marpoc, édition des recherches occitanes de la frontière espagnole, enfin tout ça, à l'Italie. Voilà. Voilà. Et ça, alors, c'est un autre conte édité, c'est une façon de parler à mes petits-enfants, parce que j'étais très impressionné par le fait des disparitions.
D'enfants ?
D'enfants, de jeunes garçons, de jeunes filles, et tout ça. Donc je suis allé revoir des films de Pier Paolo Pasolini sur donc des films très durs qui déjà posaient des problèmes comme ça. Donc c'est un conte qui parle de l'enfermement, des lieux fermés, avec toutes les misères, les atrocités qu'on peut faire à l'intérieur. Et de dire un peu, faites attention, il faut faire très attention, parce que ça a existé, ça existe aussi maintenant, genre les sectes, tout ce que vous voulez, dans ce but-là. C'est-à-dire les lieux clos, fermés, où il y a un gourou ou quelqu'un qui décide ce qu'il veut, et donc c'est la libre expression de toutes les pulsions possibles et inimaginables. Voilà, donc ce livre part parle aussi d'archailles, de la ruine, tout ça, et montre la collaboration, enfin, la coopération entre les jeunes, surtout, la jeunesse et les animaux. Puisque ce sont, il y a une jeune fille qui réunit les animaux du lieu à la ruine, et avec un plan de bataille, ils partent de l'autre côté du pic de Coire, détruire cette forteresse. Voilà. Et ce sont les taupes, ce sont les chaque clan, chaque famille d'animaux a sa possibilité d'intervenir. Enfin, et tout ça, après avoir, au 18e, j'ai situé cette histoire autour du 18e siècle, là où ça a bouillonné dans les têtes, avec des réunions dans la Durance, des jeunes, justement, que les jeunes se prenaient en main ces difficultés-là, ces tremblements. Donc, parce que dans leur village, ils voyaient des jeunes aussi disparaître. Enfin, ils se demandaient... voilà, où ça va, où ça allait. Voilà. Donc ça a été un livre très dur à écrire pour moi, très dur affectivement, parce que je ne voulais pas rentrer dans le pathos, je ne voulais pas dans le dramatique, tout ça, et j'étais toujours sur une corde raide entre parler de ces choses-là et puis de garder l'optimisme, quoi, de garder l'optimisme des choses. Voilà, c'est un livre qui est adressé bien sûr aux jeunes, aux anciens aussi, mais je l'ai écrit en pensant à mes petits-enfants.
La forêt qui roule.
Voilà, c'est l'éboulement qui a eu lieu derrière, en haut de Digne, sur le versant de à côté du pic de Coire. Il y a un grand éboulement, et je me souviens, il y a 15-20 ans, avec mes beaux-parents et mon épouse, on avait été voir les museaux. Il y avait deux museaux, je crois, à l'époque, qui s'étaient retrouvés au milieu de l'éboulement. C'est les Dourbes, c'est l'éboulement des Dourbes, de cheminée des Dourbes. Voilà, bien oui, voilà tout ça. Voilà. Et donc, je suis resté en panne d'écriture 3-4 mois pour continuer à écrire ce texte. Et c'est un ami compositeur, musicien qui habite dans le Nord, je lui en ai fait part, et c'est lui qui m'a proposé, me dit, mais moi aussi en musique, les compositions, ça m'arrive d'être bloqué, et je fais comme ça, c'est mis, et dès le lendemain je me suis mis. Et disons que c'est reparti, quoi. Ça a pu repartir. Mais ça a été douloureux. Ça a été douloureux. Ouais.
Voilà, et enfin, il y a un dernier livre. Vous l'avez acheté à Jacques Becker. D'accord. Bon.
Alors ça, c'est le premier livre qui a été édité. Donc, c'est tout un travail avec un poète, un ami poète et essayiste, à la recherche des temps perdus, avec André Vinas, qui est maintenant un poète qui est décédé.
Alors, des temps, on précise bien que ce n'est pas le temps, mais c'est les temps avec GS.
GS, hein, c'est l'eau, parce que là-bas, on vit avec l'eau. Voilà, c'était aussi un travail important. Oui, j'ai beaucoup travaillé sur la Camargue, j'ai fait un gros livre important aussi de recherche sur les manadières. Les femmes manadières. Donc, alors c'est édité aussi aux éditions Sansuir. Donc, et c'est un livre qui a été réédité une deuxième fois parce que voilà, qui a une consonance de reportage, de statistiques. J'avais fait un travail de statistiques et c'était les nouvelles manadières, les femmes manadières. Qui était propriétaire elle-même de la manade, et non pas la femme de monsieur qui a... Donc tout ça parce que j'étais en proximité avec la première femme manadière, Fonfonne Guilherme, qui habite au sud du Kélar, qui habitait au sud du Kélar, qui avait sa maison, qui était la première femme propriétaire qui avait sa manade, qui avait une renommée. Les taureaux, une grande renommée que j'avais photographiée aussi. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais quelles sont les fanfones Guilherme d'aujourd'hui ? Rien que de poser cette question, 3 ans de travail pour répondre à ça. Bon, c'était très intéressant. J'étais aidé par le parc qui m'a donné des références de noms, tout ça. Mais le contact, je crois que j'ai fait 3000 km pour aller voir. J'étais très bien reçu. Il n'y a pas eu un accroc. Il y a eu un travail de préparation, justement, avec les personnes pour qu'elles sachent à quoi s'en tenir avant. Et moi, je leur tire toujours. Je suis très impressionné parce que les interviews que je faisais avec elles duraient 45 minutes, une heure. Et elles parlaient de leur métier. Après, quand je pense à ça, je dis, elles assuraient dur, quoi. Voilà. Non. Et donc, c'est pour ça, en même temps, j'ai titré ce travail, le livre, « Les soleilleuses de Camargue ». C'est-à-dire que ce sont les soleils de demain. Je pense vraiment, parce que ce sont des entrepreneuses qui savent ce qu'elles veulent, elles s'entraident. Il y en a maintenant, évidemment, l'histoire n'est pas la même, l'histoire du passé, mais elles savent élever, elles savent faire, et elles le disent, elles sont à l'aise vis-à-vis du travail des hommes. Or, la Camargue, c'était un pays très macho, un milieu très macho. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'un monde très macho vénère une femme manadière. Hein ? Pareil pour une autre femme cavalière du côté d'Arles. C'est très drôle. J'aime jouer sur ces contradictions-là et aller voir ce qui se passe derrière, quoi. Enfin, définir. C'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse.
Didier Leclerc, donc auteur, photographe. Donc on peut retrouver vos livres ou votre biographie sur un site.
Oui, Facebook, Didier Leclerc, N89. Donc c'est ma page en tant que photographe, auteur.
Merci.
Voilà, ben je vous remercie aussi.